L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'AJT du local, votre émission quotidienne autour de l'actualité mayonnaise au sens large sur l'autre radio, animée par Claire. Salut Claire.
Salut Marie, salut tout le monde, en direct à Laval, toujours où il fait très beau.
Et on en profite ici aussi à Château-Gontier, c'est vrai que là le grand soleil en tout cas qui nous nargue un petit peu quand même, parce qu'on rappelle que c'est un petit peu le confinement. Mais on peut quand même en profiter, donc ça va, on va pas trop râler, je suis un petit peu la spécialiste. Donc non, on ne commence pas cette émission en râlant, puisque c'est une émission quand même où on va vous proposer justement, tiens, si vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances avec les enfants ou pas d'ailleurs, un concours photo anti-gaspi, où justement vous pouvez prendre en photo des moments, des instants de gaspillage. Alors gaspillage au sens large, c'est proposé par l'association UFC Que Choisir Mayenne. Et puis on va parler aussi d'une expo photo que vous pouvez retrouver en ligne, forcément avec les conditions sanitaires. Une expo photo intitulée « Ensemble, prenons la différence ». Tout un programme, on en parlera dans l'interview. Et puis Claire, c'est toi qui t'es occupée de la chronique du mardi, je te laisse la présenter.
C'est ça, et aujourd'hui c'est sur la Seconde Guerre mondiale, donc... Un gros moment de l'histoire avec plein de témoignages, des personnes malheureusement aujourd'hui décédées, mais des témoignages poignants, donc faut rester branché.
Évidemment. Une très bonne raison, s'il en fallait une, pour rester jusqu'à la fin de cette émission. Merci beaucoup.
Mais tout de suite, Marie, on fait un point sur l'actualité. Des policiers manifestent ce midi devant le tribunal de Laval.
Mais aussi partout en France, à l'appel du syndicat Alliance, pour dénoncer le jugement dans l'affaire de Véry-Châtillon, où des policiers étaient tombés dans un guet-apens en 2016. 5 jeunes auteurs ont été condamnés et 8 acquittés en deuxième instance. Un verdict délivré il y a quelques jours, verdict à la baisse par rapport à en première instance. Le syndicat demande à ce que les peines prévues par le code pénal soient appliquées systématiquement pour les agresseurs de policiers et qu'elles soient incompressibles.
Un homme blessé par balle à Laval vendredi soir.
Des tirs ont éclaté dans le quartier Saint-Nicolas dans la soirée de vendredi dernier. Sous les yeux de nombreux témoins, un homme légèrement blessé a été transporté à l'hôpital. Il en est désormais sorti. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette affaire.
Mobilisation pour les étudiants au théâtre de Laval occupé.
Les occupants dénoncent la détresse que connaissent les étudiants depuis le début de la crise sanitaire, avec l'enseignement à distance, l'isolement contraint. Et désormais, chaque jour symboliquement, vous les avez peut-être déjà vus, un étudiant travaillera devant le théâtre pendant 3 à 5 heures d'affilée.
En amont des régionales, Guillaume Garot invite les citoyens à 5 ateliers participatifs.
Et oui, ça commence dès ce mardi avec une session autour de l'économie, l'emploi et l'agriculture. C'est donc le premier des 5 ateliers proposés par Guillaume Garot, tête de liste socialiste pour les élections régionales. Ces ateliers sont accessibles à tous. Ils commencent à 18h30 sur la page Facebook du Printemps des Pays de la Loire, avec un temps d'information et de présentation des compétences régionales. Puis à 20h30, une séquence de travail par petits groupes en visio. Pour y participer, il faut s'inscrire sur guillaumegarot2021.fr. Mathieu Orphelin, lui, dévoile 50 mesures économiques dans son programme. La tête de liste de l'appel écologique et solidaire veut donner la priorité à la relocalisation et au renforcement du tissu industriel existant, et aussi à des investissements massifs dans la transition écologique. Parmi les mesures qu'il préconise, 1 milliard d'euros d'investissements supplémentaires 100% favorables à l'environnement et le soutien à tous les territoires zéro chômeur de longue durée, avec une promesse, 50 000 emplois supplémentaires créés grâce à la transition bas carbone de l'économie.
À Laval, la braderie des commerçants est reportée.
Non pas à cause de la Covid-19 comme l'an passé, mais à cause du Tour de France. Les commerçants n'auraient pas l'autorisation de la ville pour déballer le 27 juin, à 3 jours de l'étape de la Grande Boucle, pour une question d'entretien et de nettoyage des rues, entre autres. La braderie lavalloise est donc reportée au 12 septembre.
Une nouvelle collecte de sang demain à Laval.
Comme chaque troisième mercredi du mois, vous pouvez aller donner votre sang au quartier Ferrier à Laval entre 15h et 18h45. Il est possible de prendre rendez-vous à l'avance sur le site monrdvdondesang.efs.sante.fr.
Le foot, le stade lavallois cherche à se relancer.
Les hommes d'Olivier Frappoli affrontent ce soir Boulogne-sur-Mer à 18h, seulement 3 jours après leur défaite à 7 samedi soir. Les Tangos n'ont pas remporté de match depuis quasiment un mois. C'était lors du derby face au Mans le 27 mars dernier.
Et Marie, dénoncer le gaspillage alimentaire en photo.
C'est ce que vous propose l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir. Elle met en place un concours photo où tous les clichés de gaspillage sont les bienvenus. Gaspillage alimentaire, mais pas seulement, comme l'explique Jean-Michel Guinaudot d'UFC Que Choisir Mayenne.
Il s'agit donc de mettre sur notre site UFC Que Choisir de la Mayenne les photos qui représentent pour vous vraiment du gâchis. Alors ça peut être du suremballage, ça peut être des choses qui sont encore consommables, qui sont jetées, ça peut être un exemple de d'obsolescence programmée, c'est-à-dire que vous avez été amené à jeter au bout de 2 ou 3 ans un produit qui normalement devrait durer beaucoup plus longtemps. Et il faut mettre une légende et une petite phrase humoristique pour illustrer cette photo. Ben, ça peut être un repas qui serait uniquement fait à base de produits qui sont emballés, par exemple. On peut très bien éviter tout ce plastique, tout ce suremballage. Si on prend les petits gâteaux, par exemple, ils sont emballés par paquet de 3. Dans les chaque paquet a du carton et dans ces paquets, il y a des petits étuis de 4 gâteaux. On a donc un excès de plastique qui est, on le sait, de plus en plus difficile de s'en débarrasser. Le plus simple, c'est d'aller sur notre site, hein, mayenne.ufckechoisir.fr. Il y a aussi le lien sur la page Facebook qui renvoie sur le site, qui renvoie donc sur le bon à participer. Et après avoir répondu à un certain nombre de questions, que vous êtes majeur, que vous avez possibilité de le faire. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de marque qui figure dessus. Il ne faudrait pas qu'il y ait de personne sans les autorisations. Il ne faudrait pas trop pouvoir reconnaître un lieu particulier. Donc, s'il y a des marques, essayez de les flouter au maximum. Et ensuite, on dépose les photos et elles seront sélectionnées. Donc, il y a en Mayenne 3 lots à gagner. Un premier lot de 300 € plus un abonnement au site. Un deuxième lot de 200 € plus un abonnement au site et un troisième lot de 100 €. Et au niveau national, toutes les associations qui auront participé au concours regrouperont leurs photos et il y aura un choix qui sera un premier choix du public et ensuite il y aura un gagnant national qui, lui, gagnera un vélo électrique d'une valeur maximum de 3 000 €.
Ce concours gratuit se termine le 1er mai au soir. Pour envoyer vos plus beaux clichés sur ce thème, rendez-vous sur le site mayenne.ufckechoisir.fr. Et enfin, donc, nous sommes le 20 avril. 20 avril, c'est l'anniversaire de Joël, notre programmateur. Évidemment, donc nous lui souhaitons un très joyeux anniversaire et à cette occasion, c'est lui qui a choisi les 2 titres que vous allez entendre dans cette émission et dont le premier, alors j'espère ne pas écorcher le nom, j'espère qu'il m'en voudra pas, on écoute João Bosco avec Jeitinho Brasileiro.
Salve Neguinho, Guizinho, salve Carlinhos e Pilares. Essa rapaziada esperta que é energia do samba. Vamos, gente!
Pra todos, tá bom, tá um jeitinho brasileiro. Assim entre o sofrido e o cativeiro. Feito ali, no marco aquela.
Que beleza, gente!
Mentira de ser sinceramente. Se desfria a cor do quintal. Meu irmão pelado.
Allez, avouez-vous aussi, hein, vous avez dansé, ça y est, là, le temps d'un instant. Vous étiez avec nous au Brésil avec cette chanson sélectionnée donc par notre programmateur Joël. Je vais retenter de la prononcer, je suis désolée pour tous ceux qui maîtrisent, eux, le portugais brésilien, moi pas du tout. C'était donc João Bosco que vous avez entendu avec Jetinho Brasileiro. Bon, c'était pas forcément mieux, on a tenté, tant pis. Tout de suite, donc, on va passer à l'interview. L'interview consacrée donc à une exposition photo qui s'appelle « Ensemble, prenons la différence ». Un slogan qu'a choisi donc Christelle Gouillet justement pour cette exposition, qui devait être normalement visible physiquement pour les semaines de lutte contre les discriminations en mars. Une quinzaine de portraits d'enfants et adultes porteurs de fentes labiales. Covid oblige, les photos sont à retrouver en ligne pour encore quelques jours seulement. L'occasion de revenir sur ce projet avec son instigatrice.
Christelle Gouillet, 32 ans, je suis à l'initiation de l'expo Ensemble prenons la différence et maman de deux petites filles dont Léane, 7 ans, atteinte d'un syndrome charge et d'une fente labiale.
Justement, ce qui est directement lié, je dirais, à cette idée d'exposition, d'où est partie cette volonté, justement, d'exposition ?
Dans un premier temps, bah, de Léane, avec le parcours qu'on a pu vivre avec elle, et notamment avec sa fente labiale. C'est vrai que c'était l'une des malformations de Léane, parce qu'elle en avait d'autres, mais c'était celle qui était le plus visible, donc qui a fait le plus parler et qui nous a mis face à des situations parfois un peu douloureuses à vivre, comme le regard des autres. Et puis, en ayant suivi des forums où justement les personnes pouvaient parler de la problématique du regard de l'autre, qui leur était compliqué, et je me disais, bah pourquoi pas travailler une expo photo sur ce thème, pour pouvoir en parler, expliquer, et voilà, parce que pour moi, plus on montre les choses, et plus après les gens ont l'habitude de les voir, et ça n'interpelle plus finalement.
Alors justement, une fois qu'il y avait cette volonté d'exposition, comment est-ce que vous avez travaillé, comment est-ce que vous avez convaincu finalement les personnes qui sont en photo d'être prises justement en photo pour cette exposition ?
Alors déjà dans un premier temps, il a fallu trouver une photographe. Donc ça a été assez rapide puisqu'on m'avait bien conseillé, on m'avait dirigé vers une photographe qui avait l'habitude de faire des projets solidaires, enfin comme Pauline Lévesque de chez My Photo. Ensuite, on a lancé des appels à candidature pour des prises de vue sur les forums, mais aussi par le biais de tracts. Donc finalement, j'ai même pas eu à convaincre les gens. Les gens savaient pourquoi je le faisais, donc ça a été aussi assez facile, même si au niveau des tranches d'âge, j'aurais souhaité qu'il y ait plus d'hommes, en tout cas d'hommes et puis de personnes plus âgées. Mais sinon, enfin, on a eu quand même 16 portraits en tout.
Et parmi ces 16 portraits, justement, vous dites un peu avoir ce regret qu'il n'y ait pas plus d'hommes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire à quoi elle ressemble, cette exposition, pour les auditeurs qui, par définition, ne la voient pas ?
Alors du coup, en fait, elle représente donc 16 portraits de personnes porteurs de fentes labiales, donc d'âges différents. Ça va de 6 mois à 40 ans. Il y a deux enfants non opérés, deux bébés de 6 mois, un petit garçon et une petite fille, tous les deux avec des fentes labiales différentes. Une avec une fente labiale unilatérale et le deuxième avec une fente labiale bilatérale, donc c'est quand les deux côtés sont atteints. Ensuite, c'est des enfants de 6 à 10 ans, puis après on va de 16 à 40 ans, voilà, avec des fentes différentes et avec des chirurgies aussi différentes, puisqu'en fonction de l'époque où ça a été fait et en fonction aussi des hôpitaux où ça a été réalisé, les méthodes sont pas forcément les mêmes.
L'idée, c'était aussi, j'imagine, de voir un petit peu tous ces visages multiples et divers, justement, de valoriser cette différence.
Tout à fait, c'est vraiment ça. En fait, le but, c'était pas non plus de faire un gros portrait sur la cicatrice, c'était aussi de montrer comment on pouvait vivre avec une cicatrice. C'était aussi montrer qu'on pouvait avoir une cicatrice et qu'on pouvait rester beau, puisque c'est ça souvent ce qui nous fait peur quand on apprend que notre enfant va naître avec cette malformation, c'est qu'on se dit ça va lui défigurer le visage ou et finalement quand il naît, c'est pas le cas parce que c'est notre enfant, donc on le trouve magnifique. Et quand c'est réparé, enfin, on ne voit même plus. C'est essayer d'aller au-delà, en fait, de la différence physique et de ne pas regarder que celle-ci, quoi.
C'est quelque chose auquel vous avez été confrontée, j'imagine, avec votre fille ?
Oui. Quand elle est née, Léane, on a eu des personnes de notre entourage qui n'ont pas souhaité venir voir Léane. Parce qu'ils ne savaient pas comment se comporter face à cette différence. Ils se sont dit on se met en retrait. Nous, dans le contexte de Léane, donc, en plus de sa fente, elle a eu une tumeur au poumon, donc elle a fait de la chimio, tout ça. Donc, c'était un peu difficile pour mon mari et puis moi d'entendre les gens qui n'étaient pas capables de faire cette démarche alors que voilà, on a pu perdre notre fille et on avait besoin du soutien des gens, donc on aurait aimé que les gens, par rapport à leur dire, se fassent violence et nous accompagnent au lieu de se mettre en retrait, quoi. Et puis aussi, quand on sortait, en fait, entre les regards de personnes interpellées et puis ceux aussi qui se permettent de dire des choses qui sont maladroites, du coup, tout ça m'a un petit peu interpellée, quoi.
Et est-ce que votre fille, justement, elle est au courant de votre projet et elle se rend compte de cette exposition et de tout ce que vous avez fait autour de ça ?
Alors, elle est au courant. Après, Léane, du fait de son handicap, je suis pas sûre qu'elle ait tous les tenants et les aboutissants. Maintenant, je le fais pour elle et c'est vrai que je l'ai fait aussi pour les autres. Donc, en tout cas, pour l'instant, elle me dit pas les choses. Enfin, on peut pas en discuter là-dessus. Mais j'espère que quand elle sera un peu plus grande et qu'elle puisse s'exprimer là-dessus et qu'elle comprenne ma démarche, en tout cas. Et en tout cas, je suis déjà fière par rapport aux autres participants ainsi que leur famille parce que j'ai reçu quand même des remerciements. On m'a dit heureusement qu'il y a des gens comme vous. Pour moi, c'est déjà satisfaire les personnes qui ont participé avant de satisfaire les personnes qui regardent. C'est d'abord satisfaire ce que les modèles ont voulu montrer.
C'était une première pour vous. Vous pensez donc que passer par la photo, par une exposition comme ça, ça peut être un bon moyen justement de sensibiliser, d'ouvrir un peu les regards et les esprits?
Eh bien oui, justement, parce que je me dis que si on laisse, si on parle pas de la différence, on voit bien les choses qui sont faites. Par exemple, j'ai en tête tout ce qui est en lien avec la trisomie 21. Il y a quand même pas mal de choses qui sont publiées, il y a pas mal de spots télé, tout ça. Et je trouve que plus on avance et plus la crise 2021 est quand même beaucoup plus acceptée dans notre société. Et je me dis, on pourrait très bien faire ça pour toute différence. Donc oui, pour moi, faut montrer les choses. Donc pour les montrer, moi j'ai choisi le biais de la photo. Après, il y a plein d'autres outils, mais...
Montrer, en tout cas, en parler, ça contribue à tout ça. J'ai vu aussi que vous aviez écrit un livre sur votre expérience. Ça aussi, ça fait partie justement d'en parler et de ne pas cacher ce sujet.
Alors, moi, je suis quelqu'un qui est... J'ai besoin d'extérioriser tout ce que je peux ressentir. Même quand ma fille est arrivée, c'est vrai que tous mes états d'âme, je ne les ai pas forcément cachés, même à l'entourage. J'avais besoin en tout cas d'en parler. Pour moi, rien n'est tabou. Donc mon livre, oui, c'était une forme aussi de dire, nous on a vécu ça. Peut-être que certains se retrouvent dans notre livre. Donc vous n'êtes pas les seuls. J'ai voulu aussi montrer que... Que par le biais de l'écriture, j'ai pu faire aussi passer des messages, finalement.
Votre livre, du coup, vous y racontez vraiment la naissance de votre fille, c'est ça ?
Oui, et les trois premières années.
Et donc c'était, j'imagine, pour vous, un besoin, comme vous le disiez, d'extérioriser tout ça. Est-ce que l'idée, c'est aussi que ça parle peut-être aux parents qui sont dans la même situation, ou même au grand public, pour sensibiliser ?
C'est ça, c'était dans le même objectif, en fait, d'essayer de, quand on n'est pas concerné, directement concerné, en tout cas, essayer de comprendre un petit peu tout ce que les personnes peuvent ressentir et essayer d'adapter un peu les comportements, même si quand on est dans ces situations-là, on agit aussi avec ce qu'on est, hein. C'est pas le tout de changer les gens, mais des fois entre les personnes qui n'osent pas venir vers nous parce que ils ont peur de pas se comporter correctement. Enfin, je trouve ça de dire ça, c'est maladroit. Hein, ça, c'est dans le je veux bien faire, mais finalement, quand on veut, à force de vouloir bien faire, bah finalement, on fait pas forcément bien.
Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous avez vraiment du mal aujourd'hui à entendre, comme bah non, je vais même pas aller vous voir parce que je sais pas me comporter, comment me comporter avec ça, ou d'autres phrases peut-être, ou d'autres comportements?
Eh bien, bah oui, cette phrase-là, je trouve qu'elle est dure à entendre, parce que finalement, alors après, voilà, j'ai pris du recul aussi par rapport, voilà, Léane va avoir 8 ans, donc j'ai pris du recul par rapport à ça, mais c'est vrai que quand on vit l'instant présent et que finalement on a besoin d'être entouré, d'être soutenu, de sentir qu'on a des piliers autour de nous quand tout s'écroule, on va dire. Après, c'est une façon de se protéger aussi. J'essaie de mettre de l'autre côté, hein, de dire bah non, je préfère pas venir parce que je veux pas être maladroit. Des fois, bah oui, il faut se faire violence et dire bah non, là, telle personne a besoin de moi, donc j'y vais et j'y vais avec ce que je suis. Il y a des personnes qui sont venues nous voir, qui par le biais aussi, bah, ils posaient des questions, mais on l'a pas vécu comme quelque chose d'intrusif ou de désagréable. Justement, ils essayaient de comprendre ce qui pouvait arriver à notre fille, quoi.
J'ai vu aussi que vous aviez donc créé l'association Léane et compagnie.
Oui.
Ce projet, justement, donc, d'exposition, fait aussi partie des actions de l'association?
Eh bien, en fait, c'est à l'inverse. C'est quand on a créé, quand j'ai créé du coup ensemble Prenons la différence. Donc, il y a eu une première expo avec un vernissage au studio My Photo. Donc, où j'avais dans le but de que l'expo se déplace. Et puis, bah, je me suis rendu compte que niveau financier, parce que bah, quand on fait des vernissages à chaque expo, ça a un coût quand même. Bah, je me suis dit, bah, il faudrait peut-être créer une association pour pouvoir en tout cas la faire voyager, cette expo. Bon, malheureusement, avec la crise sanitaire, l'expo a du mal à aller dans les lieux où c'était programmé. Et puis du coup, il n'y a pas de vernissage. Donc comme ça, au moins au niveau financier, pour l'instant, c'est pas la question. Et puis quand j'ai réussi à monter le bureau de Léane et compagnie, du coup, on a travaillé sur ce qu'on avait envie de faire. Et donc, dans un premier temps, c'est promouvoir justement le handicap quel qu'il soit par le biais d'actions, comme Ensemble Prenons la différence. Donc, quand je parle de promouvoir le handicap, c'est bien sûr informer, expliquer, montrer pour mieux comprendre.
Donc, l'idée, oui, c'est aussi d'élargir à d'autres handicaps.
Voilà, c'est ça. Oui. Après, il y a une vingtaine d'adhérents. Donc, après, voilà, tout adhérent peut amener sa touche, et puis on parle ensemble de ce qui pourrait être des sujets à traiter dans les années à venir. Hein. Là, pour l'instant, on s'est concentré sur Ensemble Prenons la différence, et puis après, on élargira en fonction de ce qu'on nous amènera, en tout cas, en sujet.
Dernier jour, donc, pour profiter de l'exposition visible sur collectif-und.fr. Et pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur les pages Facebook Léane et compagnie ou sur la page Facebook Ensemble Prenons la différence. On revient d'ici quelques petites minutes avec un nouveau morceau choisi là aussi par notre programmateur Joël. On écoute Baden Powell avec O Astronauta. Si j'arrive à trouver, voilà, on écoute tout de suite O Astronauta. Baden-Powell avec O Astronauta sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local. Et c'est parti, Claire, pour le troisième épisode de notre chronique spéciale archive.
À l'occasion des 40 ans du studio vidéo municipal de Laval, Stéphane Pio, vidéaste, nous présente ses principaux films historiques. On continue aujourd'hui avec...
un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale à Laval que l'on a réalisé en 2015, donc il y a déjà 6 ans, comme le temps passe vite. On a interviewé à l'époque, et il était temps de le faire, immortaliser le témoignage de Lavalloise et Lavallois, donc il y a 50 témoins Lavallois. Petit clin d'œil aussi de l'histoire, c'est une petite fille d'une témoin qui nous lit le commentaire général. Ce documentaire a été projeté à la salle Pau et tenez-vous bien, il y avait 3000 personnes. C'est vraiment un film qui a beaucoup plu. Je vous laisse découvrir ce film en avant-première.
Le dimanche 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Les églises de Laval sonnent le tocsin. Laval comptait deux casernes qui abritaient le 124e régiment d'infanterie, Corbineau et Schneider.
Il y avait 3000 hommes, hein, 124. Hein. C'était extrêmement puissant. Hein. Il y a les épouses, il y a les enfants qui veulent voir leur père partir, puisque beaucoup, quand même, étaient des résidents lavallois, bien que Laval était beaucoup plus petit que maintenant. Hein, Laval était vraiment une petite ville. Hein. Et donc, il n'y avait pas des foules comme on peut s'attendre, ou on pourrait s'attendre, hein, pas du tout.
Mais j'ai pas des souvenirs terrifiants, quoi, inquiétants. Les gens étaient plutôt confiants. Ils partaient, je dirais pas la fleur au fusil, mais pas inquiets, à Noël, on est revenu, c'est pas grave, ça.
Donc là, on est au 1er septembre 1939. Les soldats lavallois et mayennais commencent à regagner les casernes lavalloises. Et puis on les voit déambuler, notamment un très beau film que l'on a acheté à une cinémathèque. On voit le départ du 124e dans les rues de Laval, remontant vers la gare, et puis dire au revoir à leur famille et montant dans les trains pour partir à la guerre. Donc là, je vous laisse découvrir et entendre un peu le commentaire général et puis témoignage des Lavallois qui racontent un peu l'envahissement des Allemands petit à petit.
Et puis alors, bon, ben, ils défilaient dans la rue, alors au pas de doigt et ainsi de suite, quoi. Ça, c'était leur grand... ça leur plaisait beaucoup. Ali allo, là, c'était surtout quand ils défilaient, ça. Ali allo, voilà. Ali allo, voilà. Ben oui, nous, ça nous faisait un petit peu de mal de les voir défiler comme ça dans les rues de la ville, n'est-ce pas?
Alors oui, vous avez entendu, forcément les Lavalloises et les Lavallois, ils avaient un peu peur des Allemands, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Donc maintenant, ben, on va aller déjà sur la fin, hein. C'est un film qui dure 53 minutes, petit clin d'œil à la Mayenne. Et donc ben, on va aller sur la fin où là c'est vraiment très émouvant parce qu'ils nous racontent un peu leurs souvenirs qui sont ben, ancrés en leur mémoire et ils ont du mal encore à oublier ce qui s'est passé.
Après la guerre avec mon père, sitôt la guerre finie, on a dit qu'il faut que ça se termine. Parce que tous les 20 ans, il y a une génération de Français qui se fait tuer. Donc il faut en finir. Alors on a décidé de travailler avec eux. Si bien qu'on a pris Mercedes, Volkswagen, hein, et on a exploité ces deux marques-là. On avait décidé ça, et je crois que c'était la bonne solution. La preuve, c'est que maintenant, bon, dans l'Europe, on ne se tire plus dessus. Hein. Et il faut souhaiter que ça ne se reproduise jamais.
Vous voyez, c'est un film qui est chargé d'émotions. Je vous raconte un peu la vie de ce monsieur. Il a perdu ses deux frères à la guerre. Et donc, avec son papa, ils ont décidé d'ouvrir un garage et de travailler avec deux marques allemandes. Donc voilà, film chargé d'émotions, beaucoup de souvenirs, 3000 DVD de vendus, 2500 personnes à la salle Pau. C'est ce passage de témoin que je veux faire passer à chaque fois quand on fait ce genre de rencontre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau documentaire qui va traiter d'un sujet autre sur une période donnée.
Et justement, ce sujet, on l'a, ce sera les bateaux lavoirs lavallois dans les années 60. Je ne vous en dis pas plus, on retrouve Stéphane mardi prochain.
C'est ce qu'on appelle du teasing. Merci beaucoup Claire pour cette chronique, en tout cas cette nouvelle chronique sur les archives de Laval. À chaque fois des pépites et puis beaucoup, beaucoup d'émotions, j'ai l'impression, dans chaque sujet. Ou alors c'est que moi, hein, mais n'hésitez pas à nous dire. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que ça fonctionne aussi sur moi. En tout cas, c'est l'heure de la rubrique initiative, Claire. Et c'est, on le sait, la dernière semaine des vacances, mais toujours plein d'idées pour occuper vos enfants.
5 étudiants du DUT informatique de Laval ont développé une application de jeu pour les enfants aux couleurs de l'océan. S'adresse aux petits, de la petite à la grande section. 3 mini-jeux sont proposés, aquarium, crabe et bulle. Ils permettent d'apprendre les couleurs avec 3 niveaux de difficulté. Il faut faire glisser, incliner le support, cliquer sur les poissons de la bonne couleur. Un moyen de développer la motricité fine pour les plus jeunes. Pour télécharger l'application, rendez-vous sur le Play Store de Google et tapez aux couleurs de l'océan.
Et une fois que ça y est, on a bien joué sur nos écrans, on peut prendre le temps de regarder les étoiles.
Mayenne Astronomie nous lance 10 défis pour ce confinement. L'association d'astronomie est toujours très active et a proposé plusieurs défis pendant les 2 autres confinements. Pour ce 3e, vous devrez par exemple trouver la planète Mars, voir les quelques étoiles filantes prévues, pour ce jeudi 22 avril. Et la 10e mission, évidemment, prendre de belles photos et les poster sur les réseaux sociaux. Pour retrouver toutes les missions et les conseils pour observer justement les planètes, rendez-vous sur la page Facebook M53 Mayenne Astronomie.
Ouais, on n'oublie pas le plaid quand même, hein, jeudi soir pour observer les étoiles filantes, parce que même s'il fait très beau la journée, la nuit, c'est pas encore les nuits d'été, quoi. Merci beaucoup en tout cas Claire pour ces initiatives. Si vous voulez partager les vôtres, n'hésitez pas à appeler notre répondeur au 09 70 40 59 40, à utiliser aussi, ça marche, les réseaux sociaux, nom du compte L'Autre Radio, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. C'est déjà la fin de cette émission L'AJT du local pour aujourd'hui, le 20 avril, et on va souhaiter à nouveau un bon anniversaire à Joël, jamais trop de fois.
Et oui, joyeux anniversaire Joël, et à demain Marie.
Et à demain Claire, évidemment, on se retrouve au même horaire, mais avant ça, évidemment, les émissions se poursuivent à l'antenne avec à 20h comme chaque mardi, The Voice of Cassandre, suivi à 21h de Frères de Chaussures. Nous, on se retrouve demain à 12h15, comme tous les jours de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.